Tu connais la phrase de Lao Tzu sur l'inattendu ? Aveugle, nous suivons le sentier de la vie.
Pas de quoi avoir les jetons. De toute façon, on y va tous. C'est la seule chose dont on soit sûr. Le problème, c'est de savoir à quelle vitesse on y va.
Quelle bonne surprise !
Allez, viens, toi. J'ai hâte de parler.
Écoutez, mon vieux, vous auriez pu trouver plus simple.
Bonjour à toutes et à tous, l'équipe du Collège Gandhi envahit les ondes. Pour votre plus grand plaisir, Naomi et Cassandra sont avec moi. Bonjour.
Bonjour Lisa, bonjour chers auditeurs, au sommaire de cette émission.
Dans quelques instants, nous irons à la rencontre du sociologue Francis Châteaurenault. Il travaille sur la notion de lanceur d'alerte et intervenait à Rennes dans le cadre du festival Caméra Rebelle.
Nous écouterons aussi la musique de Baba Touré, percussionniste ivoirien qui viendra amener un peu de soleil dans cette émission.
Puis nous ferons un détour par les trans musicales avec un concert pas comme les autres.
Et puis nous irons au théâtre de la Parchemenerie pour le festival Images de Justice où sont projetés des documentaires sur la justice.
Juste avant tout ça, on parle photo.
C'est parti!
Tout de suite, nous irons la parole à François Bouguillon, photographe et auteur documentaire. Elle parle de son rapport à la photo et des textes qu'elle rédige à ce sujet.
Son travail nommé Exil questionne les migrations vers l'Europe. Son travail est riche, elle nous l'a raconté.
Je vais parler ce soir de ce parcours qui a débuté dans le milieu du reportage avec des amis journalistes, Marion Touboul et Samuel Forêt, avec qui je suis partie au Kosovo, au Kurdistan irakien, dans différents pays de la Méditerranée. J'ai vécu avec eux aussi, enfin, non loin d'eux en tout cas, en Égypte. Et c'est vrai qu'ensuite, mon travail a évolué, et je le définis un peu plus comme documentaire, parce qu'on est un peu plus loin de la presse, on va dire. Et en fait, je le définis encore plus aujourd'hui comme auteur, que documentaire, puisqu'on s'éloigne vraiment de toutes les représentations et les symboles du documentaire. Je vais de plus en plus vers le personnel.
La photographe traite de nombreux sujets de société, mais peut-on dire pour autant qu'elle est une artiste engagée ?
C'est une deuxième bonne question, puisque je me la pose également, parce que je ne considère pas mon travail comme étant engagé de manière classique, puisque je ne suis pas en train de militer pour des causes précises, en prenant parti pour le PKK ou pour la cause palestinienne ou pour d'autres causes, mais au contraire en essayant de poser des questions sur différents sujets, sans donner de réponse, et essayer de ne pas avoir de parti pris, parce que je pense être trop distante en tant que Française, enfin trop distante, je ne sais pas, mais en tout cas essayer de comprendre les différents côtés pour essayer d'avoir une vision large des conflits et ou des pays, des différentes situations.
Lors de sa conférence, François Bourguignon présentait tout particulièrement une série nommée Exil, issue d'un récent travail.
C'est un travail, bon, comme son nom l'indique, sur l'exil, mais plus particulièrement sur le parcours migratoire et sur l'entre-deux, donc sont des moments où les personnes qui ont fui chez eux, donc qui sont déjà parties de chez eux, mais ils ne sont pas encore arrivés, et donc sont des moments d'attente et d'errance, des moments de transition géographique. Souvent, ils sont bloqués des années, hein, 3 ans, 4 ans, en Grèce, en Turquie, au nord du Maroc. Et c'est vrai qu'ils se perdent aussi beaucoup eux-mêmes. Ils oublient, c'est ce qui m'avait frappé, ils oublient beaucoup qui ils sont. Donc c'est vraiment ces moments un petit peu de perte de soi qui m'intéressaient beaucoup dans ce travail.
Retrouvez le travail de Françoise Bouguillon sur son site internet.
Dans la vie, il n'y a pas de problème avec les fatalités.
On enchaîne en musique avec Baba Touré.
Percussion ivoirienne de renommée internationale, Baba Touré s'est valorisé l'héritage de la musique traditionnelle de son pays avec une volonté de renouveler infirmé.
Il propose aujourd'hui un nouveau projet au Rennais avec une compagnie franco-ivoirienne. On a hâte d'entendre ça. D'ici là, on écoute un extrait de son dernier album, Diarabi par Baba Touré.
Thank you.
Après ce moment de musique, retour sur les transmusicales.
Et oui, cette année encore, le festival proposait un concert organisé par des enfants pour des enfants. C'était à l'UBU. Julien, notre reporter, y était pour connaître leur ressenti pendant cette nouvelle expérience.
Bonjour, qui c'est qui n'a pas eu son tampon sur le poignet?
Moi. Tirez votre manche, présentez votre poignet comme ici.
Comme ça, hop, voilà, bon après-midi. Et puis quand les gens arrivent, si tu leur dis bonjour, bon concert, eh ben tout de suite, ils sont bien accueillis.
Bon concert.
Oh, regarde, tu lui dis bon concert, bah, tout de suite, hop, t'as pas un sourire alors qu'elle était arrivée.
Il y en a qui me dévendent.
Ah, bah tout le monde n'est pas gentil dans les salles de concert, hein, tu vois, c'est. Ouais.
Des tampons et des vents, tels sont les éléments et rudiments auxquels se retrouvent confrontés les petits bénévoles d'une après-midi, faisant les entrées du concert d'ouverture des 39e transmusicales de Rennes.
Tu vas pouvoir mettre ton manteau avec les autres.
Depuis 5 ans, c'est un jeune public dont ses membres, âgés de 7 à 12 ans, investissent la salle de l'UBU pour un concert qui leur est dédié dans le cadre des actions culturelles des transmusicales.
C'est vachement agréable de voir ça, et puis de venir dans une vraie salle de concert, qu'ils aient une vraie place, hop, c'est pas comme on ouvre la porte, ils rentrent, et ding, ils ont leur vraie place, ils sont impressionnés.
Laurent, responsable de l'équipe sécurité à l'UBU.
Ça les éduque à autre chose, de voir ce que c'est préparation d'un concert, de voir des tout petits gamins s'éclater devant un groupe qui joue la veille au transmusical dans les halls du Parc Expo, c'est excellent. Je pense que dans pas longtemps, ça va être le feu.
Cette année, ce sont 183 jeunes festivaliers répartis entre 12 des centres de loisirs de la ville de Rennes qui ont pu apprécier leur concert.
Génial, exceptionnel.
Ah, il était spécial aussi.
Au début, moi, je pensais que ça allait pas être bien parce que je connaissais pas. Il y a différentes musiques qu'il a chantées, différents styles. Et ce style-là, moi, je pense que j'ai bien aimé.
Ils sont étonnés, c'est des événements qu'ils ne connaissent pas. Aller voir un concert, ils ne connaissent pas. Très peu se sont déjà rendus et en général, quand c'était le cas, c'était dans le cadre des transmusicales ouverts au centre de loisirs.
Karim est responsable éducation loisirs à l'école Henri Chédid qui a mobilisé 4 accompagnateurs pour 18 enfants sur cet événement nécessitant une préparation spécifique.
La principale difficulté, c'était d'amener les enfants à l'écoute du concert et à enlever toutes les craintes qu'ils pouvaient avoir. Déjà d'aller dans ce lieu, une salle de concert. Nous, on a déjà fait en amont tout un travail de sensibilisation sur ce qu'est un concert, qu'est-ce qui s'y passe, comment on se tient lors d'un concert, sachant que là, c'est dans les conditions des grands. Lorsqu'on arrive, les enfants sont évidemment comptés, chacun sait où il est. Mais à partir du moment où le concert commence, les enfants peuvent se balader dans toute la salle et c'est bien le principe. Le tout, c'est évidemment de les récupérer après le concert, mais on a nos techniques d'animation justement pour que ça puisse se faire très bien, que ce soit mon centre et des autres centres, on sent bien que c'est plutôt rodé quoi. Et je pense que les craintes ont été tout au long du concert plutôt abolies, puisque leur seule revendication c'est d'y retourner.
Ceux qui se font tant désirer par la foule, ce sont les membres d'un groupe venu de loin, le Jankanabe and the Boo Boo Gang. Illustre chanteur en son pays, le Sierra Leone, c'est là que Jankanabe a fait naître il y a plus de 20 ans le style musical boubou, devenu celui d'une nation. Lorsque la guerre civile y fait rage au milieu des années 90, Jankanabe doit s'exiler aux États-Unis, d'où il parviendra à former un groupe aux membres issus d'horizons divers, nommé le Boo Boo Gang. Invité cette année au Festival des Transmusicales, le chanteur-danseur savoure la joie particulière de se produire devant un si jeune public. Vous avez l'air si fatigué, mais tellement excité aussi. Oui, c'est mon premier concert face à des enfants en France. Et j'adore les enfants. L'énergie qu'ils donnent est comme électrique. J'ai comme communié avec eux. Je suis tellement content d'avoir joué devant eux. Vous en avez invité plusieurs à venir danser avec vous? Oui, à venir sur scène. Oh mon Dieu, tous les enfants étaient heureux et j'en suis tellement heureux moi aussi. Vous avez déjà fait un concert avec des enfants à New York. Y a-t-il une différence avec les enfants des concerts new-yorkais et ceux des Rennais? Oh oui, il y a une différence entre ici et New York, mais pas seulement New York. Ailleurs aussi, ils restaient juste assis. Et en France, les enfants sont debout face à vous et profitent de l'énergie du moment à fond. J'adore ça. Et ils n'oublieront jamais ce concert. Et je sais qu'ils n'oublieront jamais Jankanabe and the Boo Boo Gang.
Est-ce que
vous êtes allé danser sur scène?
Oui, j'étais stressée au début, mais après j'ai bien aimé danser avec le chanteur parce que ça m'a déstressée un peu.
Moi au début j'avais peur de monter sur scène, mais après quand tout le monde y allait, ben, forcément je suis allée.
On l'a donné la main, on l'a fait des câlins.
Il y a quelques enfants qui ont dansé sur scène. Bon, on s'en doute quand ça arrive, on le savait. Par contre, bon, il y a toujours une appréhension, parce qu'un enfant va tomber, enfin voilà. Mais on voit aussi l'implication des adultes, hein, tout de suite, se précipitent vers la scène pour vérifier que les enfants ne sont pas en danger. De toute façon, c'est fait aussi de manière à ce que les enfants puissent faire un petit peu ce qu'ils veulent, finalement, pendant ce temps-là.
Tu sais, elle avait une couleur, la musique.
Bleu, elle serait bleue.
Bleu turquoise.
Non, moi je dis jaune.
Bleu comme le ciel. Ouais,
je dis jaune parce que le monsieur, il a brillé comme le soleil.
Bonne France musicale avec Syllabe.
Les trans pour les enfants, une joie partagée qui fait plaisir à voir vivement l'année prochaine.
Et maintenant, Irma et Alexandra nous ont rejoints en studio pour un autre festival. Bonjour Irma et Alexandra.
Bonjour à vous, on enchaîne avec un festival du documentaire proposé par Comptoir du Doc. L'association rennaise organise depuis 15 ans un événement annuel autour des images de justice. Célia, coordinatrice de l'association, nous explique comment tout cela a évolué.
Oui, alors c'est vrai que c'est un travail un peu qui se situe aussi dans l'action globale de Comptoir du Doc qui fête ses 20 ans, donc voilà, tout ça à quelques années. Images de justice, c'est un festival assez unique en son genre en France puisqu'il avait été créé à l'époque avec la cour d'appel de Rennes au Parlement. Donc l'idée, voilà, c'était de montrer des films sur la justice, des documentaires interrogeant la justice dans un lieu de justice. Donc depuis, ça a un petit peu évolué. On est plutôt parti, on ne fait plus ça au Parlement de Bretagne, mais dans les communes de la métropole, une année sur deux. Et puis la version festival à la Parcheminerie, depuis qu'on est à la Parcheminerie, donc depuis 2 ans. Voilà, avec des films qui interrogent la justice, on va dire, au sens large. Et en effet, toutes les actions que tu viens de citer, en lien avec notamment des ateliers menés en prison, mais qui sont là des ateliers qu'on peut mener aussi sur nos autres programmations dans l'année, sur le mois du doc, sur des histoires. Voilà, donc l'idée, c'est aussi de toucher avec le cinéma documentaire un très large public. Et donc, voilà, d'aller aussi montrer des films, en discuter avec des détenus.
Le grand final se déroule ce dimanche avec un documentaire troublant, The Act of Killing.
The Act of Killing, c'est une réelle expérience cinématographique parce que... En fait, c'est un parti pris qui est assez fort de rencontrer donc des bourreaux, des personnes qui sont des criminels et qui vont tout simplement être face caméra et être dans leur environnement. Et ils sont très fiers de montrer en fait comment ils procédaient au massacre des communistes, donc en 1965, lorsqu'il y a eu des tensions entre communistes et la junte militaire en Indonésie. Et au-delà de ça, en fait, on peut se rendre compte, à travers différents personnages, ce que va créer en fait cette expérience d'être filmé, de devoir raconter. On va voir que certains de ces personnages vont avoir des réactions qui peuvent étonner d'autres. En fait, même pour le spectateur, c'est aussi une expérience très atypique parce que on est comme ça balancé dans différentes directions. On est confronté à cette fiction qui est en train de se réaliser par eux-mêmes. Et en même temps, on sait qu'ils sont en train d'essayer de retranscrire une réalité qui a été la leur. Et ils nous la montrent de manière très, très brutale, très crue aussi. Donc c'est une vraie expérience. C'est quelque chose à voir, oui, à vivre.
The Act of Killing à découvrir dimanche à 15h à la Parcheminerie dans le cadre du festival. Images de justice proposée par Comptoir du Doc et on laisse le mot de la fin à Célia, coordinatrice du Comptoir du Doc.
Le mot de la fin, bah venez au festival, non, c'est vraiment voilà, des expériences de cinéma. Après, tu parlais de pourquoi ce film en clôture, on avait imaginé pas mal d'autres choses. On propose aussi du spectacle vivant, comme on est à la Parcheminerie. Donc on avait eu cette idée-là, on a voulu aussi montrer une série documentaire produite par Netflix, mais malheureusement, on n'a pas eu les droits de la montrer. Donc voilà, on fait parfois, on a plein de projets, et puis en tout cas, l'idée, c'était de terminer avec un film qui avait fait un peu de bruit médiatiquement, puisqu'il a été nommé aux Oscars il y a 2-3 ans. Donc voilà, terminer avec un film un peu fort médiatiquement et puis venez voir l'expo, venez, il y a une vidéothèque avec tous les autres films des précédentes éditions, enfin plein de choses à voir pendant 10 jours à la Parcheminée.
Image de justice, un festival à ne pas manquer.
Et les crustacés me donnent de l'urticaire.
Il faut peut-être pas trop nous en demander non plus, non ?
Tout de suite, ouvrez grand vos oreilles, c'est une nouveauté Syllab. Le groupe s'appelle Mistamina et le morceau c'est Ghost Rider.
Un morceau énergique qui nous rappelle un peu la grande période du ska.
De retour en studio, Evan et Adrien sont avec nous pour un nouveau sujet passionnant.
Francis était la semaine dernière à Lavaur dans le cadre du festival Caméra Rebelle. Il est chercheur à l'école des hautes études en sciences. C'est un des premiers à s'être questionné sur la notion de lanceur d'alerte.
Moi, mon problème à l'époque, c'était de comprendre qu'est-ce qui fait que quelqu'un est crédible ou pas quand il dit quelque chose. C'est si je dis par exemple, en fait le lanceur d'alerte c'est ça, est-ce que vous allez me croire ou est-ce que vous allez dire ça y est, il est parti dans des trucs, des élucubrations académiques, ça n'a aucun sens, etc. Donc c'est le problème de la crédibilité et de l'efficacité, de l'effet de cette crédibilité sur l'action publique. C'est-à-dire si par exemple quelqu'un dit, vous savez, on est en 1987 par exemple, et quelqu'un dit, vous savez, actuellement il y a un processus de réchauffement de la planète. Les gens le regardent en disant wow, c'est quoi ces histoires encore? Ça, c'est vraiment un truc de climatologue, tu veux des budgets pour faire des recherches. C'est comme ça que ça s'est passé. Et puis finalement, il y a eu un été extrêmement chaud aux États-Unis. Et les gens se sont dit, en fait, les données qui sortent ne sont pas absurdes. C'est vrai que les mesures montrent quand même qu'il y a une tendance. On est en 87, hein. Ça fait quand même combien? Ça fait 30 ans. Et donc, vous avez quelqu'un qui pose un problème de crédibilité. Et vous voyez que le GIEC, donc le groupe des climatologues internationaux qui ont porté la question de l'alerte climatique, ont mis quand même 20, 25, 30 ans pour essayer de convaincre l'ensemble des États de la planète, des gens, des médias, etc. Et que ce n'est pas complètement gagné encore, vous avez encore des climato-sceptiques, bon, minoritaires, mais enfin assez puissants parfois. Et donc la crédibilité, pour moi, c'est un enjeu majeur.
La crédibilité est posée par le chercheur comme un enjeu majeur. Un enjeu qui n'est cessé d'être au cœur de son travail.
Je travaille sur l'argumentation, sur la question de la preuve, sur la question de la perception. Qu'est-ce que c'est que percevoir quelque chose? Qu'est-ce que c'est que croire quelque chose? Qu'est-ce que c'est qu'influencer les autres? Qu'est-ce que c'est que de créer des dispositifs fiables dont on peut dire qu'ils vont fonctionner en toute confiance? Par exemple, un nouveau réacteur qui n'aura pas d'accident, avec une certitude, etc. Est-ce que c'est crédible, par exemple? Voilà, je travaille sur tous les cas comme ça où il y a un enjeu de crédibilité.
La notion de lanceur d'alerte n'est plus la même aujourd'hui, comme le souligne Francis Chateau-Renaud.
Il a énormément évolué. D'abord parce qu'entre-temps, l'Internet s'est déployé, que les questions d'alerte se sont multipliées, sont devenues de plus en plus grosses, énormes. On a parlé du climat, on peut parler de la biodiversité. Aujourd'hui, on peut parler d'alerte aussi de la Corée du Nord, de ce que vous voulez, du terrorisme. Et donc, en fait, il y a une multiplication des questions, etc. Et donc, les formes d'alerte ont beaucoup évolué. L'affaire Snowden, par exemple, n'était pas possible dans les années 90. Il fallait attendre qu'il y ait le 11 septembre, qu'il y ait la guerre en Irak, cette espèce de paranoïa des services de renseignement américains, etc., puisqu'ils avaient laissé passer quelque chose d'énorme. Et donc, cette espèce de mise sous surveillance, il fallait en plus des instruments pour surveiller. Et même le type Snowden, c'est-à-dire le geek, le jeune mec qui rentre dans une boîte comme ça, qui va faire du business finalement avec de l'information, c'est une nouvelle génération qui arrive avec de nouveaux problèmes. Et donc, ça se déplace constamment. Et c'est pour ça qu'actuellement, un des gros enjeux, c'est plus du tout la surveillance, c'est plus tellement l'affaire Snowden, c'est les questions de corruption. C'est tout le travail que fait par exemple une association comme Anticor ou tous ces acteurs qui vont essayer d'identifier des endroits où il y a véritablement violation en fait du droit public par le fait d'utiliser des failles des systèmes de contrôle fiscaux, soit de détourner des fonds, soit de faire de l'influence et d'intervenir sur des marchés, etc., etc.
Mais alors, est-ce que la notion de morale entre en jeu dans le système des lanceurs d'alerte?
Il y a quatre choses. Il y a les valeurs, ce au quoi les acteurs croient fondamentalement. On a tous des systèmes de valeurs. Il y a les normes, qui sont normalement indépendantes des personnes. C'est des normes. Voilà, vous avez des normes sur les bâtiments publics, etc. Vous avez des principes régulateurs, qui sont des choses qui fondent, par exemple, une démocratie, une constitution, etc. Et vous avez des idéologies ou des utopies, même, éventuellement. Donc, le problème, c'est que la morale... Le terme de morale, ça c'est moi, est problématique parce qu'il cache la forêt quelque part. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème de morale, éventuellement c'est un problème d'éthique. Mais je sais que les philosophes ne sont pas tous d'accord entre eux. Il y en a qui disent que l'éthique est supérieure à la morale, que c'est la morale qui est supérieure à l'éthique. Je crois que c'est un débat qui est absolument sans fin. Ils relisent tous Aristote, ils ne le relisent pas évidemment comme il faut, parce qu'Aristote ce n'est que des traductions de traductions. Et donc c'est sans fin. Mais je pense qu'il y a, surtout une question d'éthique, c'est-à-dire d'avoir une cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, par exemple. Et en politique, c'est de plus en plus rare. C'est-à-dire qu'on peut, faire des très beaux discours et faire exactement le contraire. Et donc, ce n'est pas éthique. Hein, c'est unethical en anglais. Ça, c'est ça. Et les morales sont tellement diverses qu'on n'arrivera jamais à les mettre en commun. Par contre, on peut construire des normes, on peut construire des principes, on peut tolérer ou admettre les valeurs des autres en acceptant un principe de pluralisme. Parce que c'est le principe de pluralisme qui rend possible d'accepter les valeurs des autres. Et vous voyez, donc il y a toute une architecture complexe. Et c'est vrai que quand les alertes concernent des questions très, justement, décrites comme morales, par exemple, le droit des homosexuels à se reproduire, typiquement ce genre de sujet, la notion de lanceur d'alerte, on voit bien que là, elle perd un petit peu quand même de sa consistance initiale. Là, on est vraiment sur des trucs, il faut dire les choses. On est dans des querelles idéologiques, dans des systèmes de valeurs, dans la question de comment on pose des normes et des principes sur des choses qui vont varier d'un individu ou d'un groupe à l'autre.
Francis Chateau-Renaud, chercheur à l'École des hautes études en santé publique.
Le festival Caméra Rebelle était organisé par Amnesty International. Retrouvez toutes leurs actions sur les réseaux sociaux.
Cette émission est terminée. Elle a été animée par les 3e B du Collège Gandhi à Fougères dans le cadre des ateliers radio menés par Syllab.
Merci de nous avoir écoutés.
À bientôt sur les ondes.